Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parlera d'Espagne et aussi d'amour, puisque l'émission s'intitule « L'amour est un oiseau rebelle ».
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser.
Voilà, c'était une interprétation toute personnelle de la célèbre Habanera du Carmen de Bizet par le duo féminin Brigitte. Alors attention, elles ont beau être deux, il ne faut pas dire les Brigitte, il faut dire tout simplement Brigitte, elles y tiennent. C'est un duo féminin aux voix planantes et enjôleuses que j'aime particulièrement, lauréat d'une victoire de la musique en 2012. Et c'est d'ailleurs en 2012 qu'est sorti le disque dont j'ai extrait ce bel oiseau rebelle de Bizet, qui est en forme de habanera. Donc, puisque toute l'émission, nous allons nous intéresser à cette danse énigmatique, à cette danse née dans les années 1830 à Cuba. D'ailleurs, c'est parce qu'elle est née à Cuba qu'on l'appelle également havanaise. On peut dire une habanera ou une havanaise. Havanaise en référence, évidemment, à La Havane, la capitale de l'île de Cuba. Alors, toutes les habaneras se fondent sur deux rythmes. Le premier est un rythme plutôt racé, fier, pam, papam, pam, pim, papam, pam, pam. On voit bien la cambrure des reins, le regard conquérant, et un second rythme plus nonchalant, chaloupé, voire lascif. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Et là, évidemment, avec le mélange du ternaire et du binaire, on sent bien le balancement des corps. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Alors cette habanera est une danse qui va faire fureur en France à partir de la fin du 19e siècle. Le premier compositeur français censé avoir composé une habanera, c'est Lalo, dans sa symphonie espagnole pour violon et orchestre, qui est entendue pour la première fois en février 1875. Or à ce moment-là, Bizet met lui aussi la dernière main à sa célèbre habanera, l'air d'entrée de Carmen dans son opéra. Ce qui fait qu'il est difficile de savoir lequel a composé le premier une habanera. Alors du côté des compositeurs français, il faut aussi citer Camille Saint-Saëns, qui était assez copain avec Lalo comme Bizet, et qui a composé en 1887 une havanaise pour violon et orchestre. C'est même un des chevaux de bataille, aujourd'hui encore, des violonistes virtuoses. Alors là, vous allez voir, il y a du lent et du rapide, plein de yam, pam, 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 et de 1, 2, 3, 1, 2 à tous les tempos possibles, puisque la pièce alterne en permanence des passages plus doux, plus langoureux, plus capiteux, avec des épisodes de virtuosité. Et alors, en cherchant bien, je vous ai trouvé une version particulièrement incandescente, parfois à la limite de la justesse dans les parties rapides. Mais la justesse du cœur ne vaut-elle pas mieux qu'une justesse de corde parfaite, mais sans âme? Nous écoutons maintenant la Havanaise de Saint-Saëns, interprétée par le violoniste russe Leonid Kogan, accompagné par l'Orchestre symphonique de Boston, sous la direction de Pierre Monteux. Thank you. Nous écoutions la Havanaise de Camille Saint-Saëns par l'Orchestre Symphonique de Boston sous la direction de Pierre Monteux et le grand violoniste russe Leonid Kogan. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu des enregistrements de Leonid Kogan. Il est mort en 1982, il était célèbre dans le monde entier comme soliste et à partir des années 50 pour le trio qu'il avait constitué avec le pianiste Émile Gilels et le violoncelliste Mstislav Rostropovitch. Mais Saint-Saëns n'est pas le seul compositeur français à s'inspirer de l'Espagne. Quelques années après sa Havanaise, en effet, Claude Debussy compose une habanera pour deux pianos intitulée Linda Raja. Oui, je sens que je ne prononce pas très bien le deuxième re, là. C'est le fameux re espagnol. Je vois ma réalisatrice Anne Weinfeld qui me fait les gros yeux. Je vous promets que je travaillerai mieux pour la prochaine fois pour bien prononcer ce Linda Raja. En fait, c'est le nom d'une courtisane mauresque. Et ce qui est drôle, c'est que cette partition composée en avril 1901, eh bien, on ne l'a retrouvée que 25 ans après. Elle était glissée entre deux feuillets d'une grande partition d'orchestre. Donc, il faut attendre 1926 pour que soit publiée la première habanera composée par Debussy. Nous allons bien sûr retrouver nos deux rythmes et particulièrement le mélange ternaire binaire 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 parfois lentement parfois rapidement comme si en quelque sorte Debussy voulait par cette pièce pour deux pianos exprimer toutes les nuances de l'érotisme.
Thank you.
C'était Linda Raja, une habanera signée Claude Debussy, écrite pour deux pianos et interprétée par les célèbres frères pianistes allemands Aloïs et Alphonse Kontarski. Mais revenons à Carmen. Figurez-vous que la mélodie la plus célèbre de tout l'opéra français, « L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. » Je sens, chers auditeurs de France Inter, que décidément vous ne vous lassez pas de ma voix de compositeur. Donc figurez-vous que cette mélodie célébrissime n'est pas de Bizet. En effet, celui-ci a emprunté la mélodie de sa habanera à une chanson écrite 12 ans avant Carmen par le compositeur basque espagnol Sebastián Iradier. Alors je suppose que Iradier, c'est un nom qui ne vous dit pas grand-chose. Pourtant, Iradier a également composé La Paloma. La Paloma qui a été chantée à la fois par Elvis Presley et par notre Mireille Mathieu. Mais j'en reviens à la mélodie qui a inspiré Bizet. Elle est intitulée El Arreglito, le petit arrangement, et sous-titrée Chanson Habanera. Elle date de 1863. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement d'un charmant dialogue entre une certaine Paloma et un certain Pépito. Alors Pépito dit à Paloma « Viens par ici, ma petite coccinelle !» Et Paloma de répondre « Non, 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 je n'irai pas par là, sauf si tu me jures que tu seras fidèle !» Bon, la suite est assez classique, c'est-à-dire que Pépito n'arrête pas de jurer fidélité à Paloma, qui ne le croit pas, car elle sent bien que dans certaines circonstances, on est amené à jurer fidélité alors qu'on veut juste en arriver à ses fins. Enfin bon, une discussion assez banale, somme toute. Alors cette mélodie, donc, El Arreglito, a été chantée pour la première fois en 1863 par la soprano Mila Travelli, et elle a triomphé grâce à cette mélodie au Théâtre Impérial de Paris. Théâtre Impérial de Paris, puisque nous sommes encore pendant le Second Empire. Alors par la suite, Bizet, un peu penaud, a dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'une mélodie populaire. Il n'avait pas eu conscience qu'elle venait d'être composée par un autre compositeur. Enfin, peu importe, maintenant, je sens que vous mourrez d'envie d'écouter cette mélodie, El Arreglito. Je n'en ai trouvé qu'un enregistrement par un ténor passablement improbable nommé José Ferrero. Écoutez bien. Vous allez, j'en suis sûr, reconnaître parfaitement les deux motifs mélodiques principaux utilisés par Bizet. Écoutions le début d'El Arreglito, une chanson habanera de Sebastián Iradier, interprétée par le ténor José Ferrero. C'est donc de cette mélodie d'Iradier que Bizet s'inspire pour faire son air d'entrée de Carmen, ce qu'on appelle un air d'entrée, c'est-à-dire la première fois que dans un opéra, un personnage chante l'air d'entrée de Carmen. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas du tout ce qu'avait prévu Bizet au départ. Non, Bizet avait prévu un air beaucoup plus classique, un air très typique de l'opéra comique français de la fin du 19e. Seulement voilà, cet air n'a pas du tout plu à la soprano Galimarié, c'était quand même la star. Elle trouvait que pour planter le personnage audacieux de la célèbre gitane, il fallait quelque chose de beaucoup plus caractérisé, de beaucoup plus typique. Et c'est ainsi que Bizet, au dernier moment, à l'idée d'utiliser cette mélodie qu'il croit être une mélodie populaire pour faire un nouvel air d'entrée. D'ailleurs, il change les paroles au passage. En effet, dans sa première version, il avait respecté les vers du librettiste Ludovic Halévy. « Un matin sur sa route, on trouve l'amour, il est là. il vient sans qu'on s'en doute, et sans qu'on s'en doute, il s'en va. Ce n'est pas fameux. Bizet remplace ces paroles approximatives par une image à la fois plus forte et plus simple. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient, de refuser. Un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, n'est-ce pas une excellente définition de l'amour et de Carmen, la farouche cigartière éprise de liberté? Nous écoutons maintenant ce fameux air d'entrée, la première version de l'air d'entrée de Carmen au premier acte, L'amour est enfant de Bohème, par la soprano roumaine Angela Gheorghiu, accompagnée par l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, sous la direction de Michel Plasson.
L'amour d'enfant de Bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Ah, ça, notre réponse ici, si commence les amours.
Nous écoutions l'air d'entrée du premier acte de Carmen de Bizet par la célèbre soprano roumaine Angela Gheorghiu. L'Orchestre national du Capitole de Toulouse était sous la direction de Michel Plasson. Alors l'air d'entrée, mais l'air d'entrée, première version, avant qu'il ne soit écarté et que Bizet ne compose sa célébrissime Habanera. Mais il est temps maintenant d'écouter une habanera écrite par un compositeur espagnol. Oui, parce que depuis le début de l'émission, nous avons toujours vu l'Espagne par les yeux des compositeurs français. J'ai sélectionné pour vous la seconde des six pièces du recueil Espagna, un recueil de pièces pour piano d'Isaac Albéniz. C'est composé en 1890, c'est pour piano, c'est entendu, mais la seconde de ces six pièces, intitulée Tango, est encore plus connue dans sa version pour violon et piano. Alors oui, vous allez me dire, tango ce n'est pas une habanera, mais si, parce que le tango a pour origine l'habanera, ou plutôt, disons que l'habanera est une des danses qui est à l'origine du tango moderne. Donc nous écoutons le tango d'Albéniz, deuxième des six pièces du recueil Hispania, par le violoniste Christian Ferras, accompagné au piano par Shuku Iwasaki. C'était le toujours aussi génial violoniste français Christian Ferras qui interprétait le tango d'Albéniz, une pièce de 1890. Alors Claude Debussy, quoique n'ayant jamais mis les pieds en Espagne, a été véritablement hanté par ce pays. Il a composé plusieurs habaneras, en dehors du Linda Rara que nous avons écouté tout à l'heure, vous vous souvenez, la pièce pour deux pianos. Je vous propose maintenant d'écouter la dernière des habaneras qu'il a composées, le prélude pour piano intitulé « La Puerta del Vino ». C'est une pièce magnifique. Alors « La Puerta del Vino », ça veut tout simplement dire « La Porte du Vin ». La Porte du Vin, c'est une des portes qui permet d'entrer dans le fameux palais de l'Alhambra à Grenade en Andalousie. Ce palais est l'un des joyaux de l'architecture islamique. Alors l'histoire, c'est que Debussy avait reçu une carte postale de Grenade et cette photo de l'Alhambra l'avait frappée. Elle jouait de manière spectaculaire sur des oppositions d'ombre et de lumière. Et Debussy, en contemplant cette carte postale, s'est exclamé « Je ferai quelque chose avec ça ». Et effectivement, peu de temps après, il a composé « La Puerta del Vino ». Alors au départ, c'est une pièce pour piano. Et Debussy demande à l'interprète de jouer cette pièce, je le cite, « avec de brusques oppositions d'extrême violence et de passionnée douceur ». Il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une magnifique orchestration de ce prélude par Peter Brenner, un pianiste, compositeur et chef d'orchestre slovaque né en 1957. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre cette orchestration qui magnifie l'original pour piano par l'Orchestre Royal National d'Écosse sous la direction de Jon Merkel.
Thank you.
nous écoutions La Puerta del Vino, La Porte du Vin, l'un des préludes de Claude Debussy, dans la magnifique orchestration de Peter Brenner. Claude Debussy a donc composé en tout 3 habaneras dans sa vie. Linda Rara, pour 2 pianos que nous avons écouté au début de l'émission, La Soirée dans Grenade, qui date de 1903, et enfin La Puerta del Vino que nous venons d'entendre et qui date, elle, de 1912. Mais figurez-vous que cette histoire de habanera a été l'occasion d'une brouille définitive entre Debussy et Ravel. En effet, Ravel avait fait entendre à Paris en 1898 une habanera pour 2 pianos. Et Debussy était dans la salle. Il a beaucoup aimé la pièce. Il a même demandé à Ravel une copie de la partition. Et quelques années plus tard, il compose et fait publier lui-même des habaneras dont certaines ressemblent étrangement à la habanera primitive de Ravel. Enfin, ce qui est sûr, c'est que Claude Debussy et Maurice Ravel étaient tous les deux hantés par l'Espagne. Donc il est juste, après avoir entendu une habanera de Debussy, que je vous fasse maintenant entendre une habanera de Ravel. Alors peut-être pas celle à laquelle je viens de faire allusion, celle de 1898, parce que ça, nous l'avons déjà passé il y a quelque temps dans La Preuve par Z. Non, je pense plutôt à sa vocalisétude en forme de habanera. Vocalise parce qu'au départ, Ravel l'a écrite sans parole pour la voix comme un exercice pour les chanteuses du conservatoire. Comme il n'y a pas de parole, cette vocalisétude en forme de habanera est souvent jouée par les instruments. Le violon, le violoncelle ou même la clarinette, c'est justement ce que je vous propose maintenant. Je trouve que c'est une pièce qui va très bien à la clarinette et j'ai justement en magasin une version absolument extraordinaire de 1957 par le grand virtuose anglais Reginald Kell. Retenez bien ce nom, Reginald Kell, c'est l'un des meilleurs clarinettistes britanniques de la première moitié du XXe siècle qui a fait carrière à la fois comme soliste et comme clarinette solo des plus grands orchestres du Royaume-Uni. London Philharmonic, Royal Philharmonic, Philharmonia, etc. Donc nous écoutons la vocalisétude en forme de habanera de Maurice Ravel par Reginald Kell à la clarinette, accompagné au piano par Brooke Smith.
Thank you.
Nous écoutions les volutes ensorcelantes de la clarinette de Reginald Kell dans la vocalise étude en forme de habanera de Maurice Ravel, une pièce de 1907. Alors je disais tout à l'heure que Debussy n'avait jamais mis les pieds en Espagne. Il me semble bien qu'au moment où Ravel compose la pièce que nous venons d'entendre, il n'avait pas encore fait le voyage en Espagne. Alors c'est un problème, moi, qui m'intéresse. Est-ce qu'on a besoin d'aller sur place pour rendre compte artistiquement, musicalement en l'occurrence, d'un pays? Je n'en suis pas si sûr. Et je vais même vous en apporter la preuve maintenant en vous faisant entendre la habanera d'Emmanuel Chabrier. Parce que lui, il y avait vraiment été en Espagne. En 1885, il en avait rapporté cette habanera, d'abord écrite pour piano, puis quelques années plus tard orchestrée. Et vous allez voir, c'est une très belle pièce qui a de la douceur, de la torpeur même, avec quelques sursauts de fièvre, mais ça me paraît moins espagnol que ce que nous venons d'entendre de Ravel et un petit peu avant dans l'émission de Debussy. Alors, on écoute et vous me dites après ce que vous en pensez. La habanera d'Emmanuel Chabrier dans la version pour orchestre, interprétée par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson.
Thank you.
La douceur chaloupée et envoûtante de la Habanera d'Emmanuel Chabrier dans sa version pour orchestre, interprétée par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson. Mais je m'aperçois que depuis le début de cette preuve par Z, je vous parle d'Espagne et que l'on n'a pas encore écouté de guitare. C'est un comble nom pour une émission aussi hispanisante. Heureusement, Maurice Jarre est là pour réparer cet oubli. Mais oui, le Maurice Jarre, le père du compositeur de musique électronique Jean-Michel Jarre. Maurice Jarre, compositeur de musique de film. Vous vous souvenez, Laurence d'Arabie, Docteur Jivago, Paris brûle-t-il, Les damnés, Le cercle des poètes disparus, c'est lui. Mais aussi Le soleil dans l'œil, un film réalisé par Jacques Bourdon en 1962, dont j'extrais cette jolie habanera pour deux guitares. Nous écoutions un extrait d'une musique de film signée Maurice Jarre. Plus exactement, une musique de film écrite en 1962 pour Le soleil dans l'œil. Plus tard, Maurice Jarre a rebaptisé cette pièce Tango Guitare, ce qui est logique puisqu'elle est écrite pour deux guitares. Mais le titre de tango prête toujours un peu à confusion. Comme tout à l'heure, vous souvenez, le tango d'Albéniz, c'est que tango et habanera se ressemblent, l'habanera étant en quelque sorte l'ancêtre du tango. Et nous terminerons l'émission par la traditionnelle improvisation de la semaine, en forme de habanera, bien entendu. Une habanera encore hantée par le souvenir lointain mais persistant de la belle Carmen.
Thank you.
C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Serre. Chef opérateur du son, Cédric Chatelus. À la semaine prochaine.
Merci.